Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour cette 27e et dernière soirée d'éthique publique de l'année universitaire des facultés jésuites de Paris. C'est donc la dernière soirée de l'année. Le thème a l'air de moins attirer que d'autres thèmes. C'est pourtant surprenant que l'université, ça dit des choses peut-être. Enfin, voilà, nous sommes là et nous avons raison d'y être. Alors, c'est la dernière soirée de l'année et vous savez que chez les jésuites, on aime bien faire des relectures. Alors, je voudrais juste faire mémoire avec vous des différents thèmes, des différentes questions que nous avons essayé d'aborder ensemble tout au long des premiers mardis de chaque mois, parce qu'il y a parmi vous beaucoup de gens fidèles et que c'est peut-être bien de se souvenir des sujets que nous avons abordés. Nous avons commencé l'année le 5 octobre avec notre système éducatif et scolaire. Est-il adapté aux enjeux d'aujourd'hui? On n'est pas très loin finalement de la problématique de ce soir avec Christiane Contoury de la communauté Saint-François-de-Xavier, directrice des études à Charles Péguy à Paris, et Bernard Gors, journaliste au quotidien La Croix. Le 2 novembre, quel avenir pour les chrétiens d'Orient avec le père Samir Halil, jésuite, qui est à l'Institut Pontifical Oriental de Rome et qui était expert au Synode sur les Églises d'Orient, et Annie Laurent, journaliste et écrivain spécialiste également du Proche-Orient. Le 7 décembre, nous étions plutôt sur des réalités de politique sociale, après le débat sur les retraites, où en est la France, et nous avions accueilli Geoffroy Roux-de-Bézieux, dirigeant d'entreprise, ancien président de l'UNEDIC, et Marcel Grignard, le secrétaire général adjoint de la CFDT. Nous avons commencé l'année en nous posant la question « Notre société sait-elle encore prendre soin de l'autre ?» C'était Jean-Baptiste de Foucault, ancien commissaire au plan, fondateur de Solidarité Nouvelle face au chômage, qui nous avait aidé un peu à réfléchir. Mardi 1er février, « Faut-il avoir peur de la Chine ?» avec le père Benoît Vermandeur, jésuite, sinologue, politologue, directeur de l'Institut Ricci de Taipei, et M. Jean-François Demiglio, économiste, sinologue également, et président du Centre Asie de Sciences Po. Mardi 1er mars, toute autre réalité, sommes-nous bien informés? Comment s'informer? Avec M. Philippe Merlan, journaliste, et Dominique Volton, directeur de l'Institut des sciences de la communication du CNRS. Le 5 avril, nous étions à l'autre bout du monde encore. Pourquoi sommes-nous en Afghanistan? Avec le général Jean-Louis Georgelin, l'ancien chef d'état-major des armées, le grand chancelier de la Légion d'honneur. Et puis le mois dernier, la France est-elle encore terre d'asile? Avec François Sureau, avocat, et Thierry Thuot, conseiller d'État. Voilà, je crois que ce n'était pas inutile peut-être de se rappeler toute cette diversité de thèmes, de sujets, d'intervenants qui, il faut le souligner, ont toujours manifesté leur intérêt, leur disponibilité pour ces soirées malgré un agenda bien chargé, et nous inviter ce soir n'échappe pas à cette réalité. L'année se termine, nous espérons vous retrouver dès octobre prochain pour continuer à faire vivre cette proposition qui semble rejoindre les attentes et les préoccupations de beaucoup à partir de questions qui de près ou loin concernent notre rapport à la vie publique, sociale, politique, professionnelle, internationale. Et évidemment, eh bien, notre réflexion, nos centres d'intérêt seront marqués par le fait que 2012 sera une année électorale importante pour notre pays. Et donc, on essaiera un petit peu de passer en revue un certain nombre de thèmes importants pour notre pays. Je vous rappelle qu'il est possible d'écouter ou de réécouter la plupart des soirées d'éthique publique sur le site internet du Centre CEF, www.centrecef.com. Qu'il est également possible de s'inscrire à l'accueil et au secrétariat pour recevoir l'annonce de la prochaine soirée. N'hésitez pas aussi à nous donner de bonnes idées, à la fois de thèmes, éventuellement, qui vous sembleraient importants de voir traités. Telles ou telles idées ont été reprises cette année. Et puis aussi, nous donner des bonnes idées pour faire connaître cette proposition des soirées d'éthique publique à d'autres personnes, afin que nous soyons toujours aussi nombreux à nos rencontres. Ces soirées sont d'abord les vôtres. Alors ce soir, pour terminer l'année et avant des vacances bien méritées, nous allons donc nous arrêter sur un sujet important, celui de l'avenir de l'université française. Depuis, on pourrait dire depuis des décennies en tout cas, sans se tromper, l'université française confrontée à des enjeux importants d'efficacité, d'orientation, de financement, traverse des zones de turbulence. Il y a 2 ans environ, elle a connu une forte mobilisation contre les réformes du gouvernement, notamment en matière d'autonomie des universités, du statut des chercheurs. Alors où en sommes-nous aujourd'hui? Quel est l'état de l'université, ses perspectives, ses enjeux, depuis notamment la crise du printemps 2009 jusqu'aux recompositions en cours? Pour nous aider à réfléchir ensemble à ces enjeux de l'université, à la manière aussi de pouvoir y répondre, je suis heureux d'accueillir 2 hommes en situation de responsabilité importante en ce domaine. D'abord, M. Georges Molinier, que je remercie très sincèrement d'avoir accepté de venir dans une période universitaire que l'on sait tous extrêmement chargée. Monsieur Molinier, vous êtes professeur des universités, philologue, spécialiste de stylistique française et de sémiotique, si je ne me trompe pas, professeur agrégé de lettres, docteur ès lettres. Vous avez été notamment maître de conférences puis professeur à l'université Toulouse 2 Le Mirail de 1979 à 1988, date à laquelle vous êtes devenu professeur à l'université Paris-Sorbonne, Paris 4, et de 1998 à 2003 d'abord, et puis de nouveau depuis 2008, eh bien, vous êtes le président de cette université Paris-Sorbonne. Et c'est en tant que tel que vous vous êtes exprimé avec d'autres présidents d'université face aux réformes qui étaient dirigées par Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous avez notamment, entre autres choses, signé une tribune dans Le Monde du 13 mai 2009 où vous exprimiez assez clairement vos positions par rapport à l'avenir de l'université. On peut dire que vous ne vous êtes peut-être pas fait que des amis dans cet engagement, mais que vous avez tenu bon dans vos convictions et vous continuez aujourd'hui à expliquer ce qui pose problème aujourd'hui dans l'université française et comment les réformes engagées ne vous semblent pas les meilleures pour y faire face. Je vous remercie beaucoup de votre présence ce soir parmi nous. Je suis également très heureux d'accueillir M. Olivier Pagési, diplômé de Sciences Po et NARC. Vous avez commencé, je crois, votre carrière à l'inspection des finances. Puis en novembre 1996, vous occupez les fonctions de conseiller technique au cabinet de Jacques Barrot, au ministère du Travail et des Affaires Sociales, et parallèlement au cabinet d'Hervé Guémard, au secrétariat d'État à la Santé. En juillet 1997, vous rejoignez le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, où vous dirigez le bureau Asie-Pacifique à la direction des relations économiques extérieures. En novembre 1999, vous êtes nommé chargé de mission auprès du PDG du groupe Cegetel, Vivendi Télécom International et Vivendi Universal Net, avant de devenir en mai 2001 le secrétaire général du groupe Cegetel. Mai 2003, vous intégrez le commissariat à l'énergie atomique en tant que directeur financier et prenant la direction du pôle gestion et système d'information de 2006 à 2009. Et c'est au mois de mars de cette année-là, je crois, que vous êtes appelé à rejoindre l'équipe de Mme Valérie Pécresse, d'abord comme directeur adjoint, puis comme directeur de cabinet depuis avril 2010. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous connaissez évidemment bien tous les deux les dossiers qui sont en débat dans l'université française. On peut imaginer que vous n'avez pas toujours été d'accord tous les deux ces derniers mois. Et je vous suis d'autant plus reconnaissant, eh bien, de venir l'un et l'autre partager votre analyse, partager vos perspectives d'avenir, simplement et en confiance ce soir. Alors, sans plus attendre, eh bien, je vais vous laisser la parole pour 20 minutes environ, chacun, avant, comme nous en avons l'habitude, eh bien, d'engager le débat tous ensemble, et nous commençons par M. Olivier Pagési.
Bonsoir. Voilà, je pense qu'il marche maintenant. Bien, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, de parler d'un sujet qui est au cœur de activités professionnelles, le président Molinier et moi-même. Alors, c'est une redoutable tâche pour au moins 2 raisons. La première, c'est que nous avons tous une expérience universitaire plus ou moins récente. Et donc, je crois que le sujet, va aborder ce soir parle forcément à tout le monde. Et puis, la deuxième raison, c'est que la réforme des universités est un processus qui est en cours et qui portera des fruits pas forcément dans les semaines ou dans les mois qui viennent, même si on est très heureux d'avoir des premiers résultats aujourd'hui. C'est un processus à long terme, avec une histoire mouvementée. Vous avez rappelé les mouvements de la fin de l'année 2008 et du début de l'année 2009, mais on pourrait remonter un peu plus loin dans le temps pour rappeler qu'il y a eu aussi d'autres grands mouvements à l'université et que le processus de réforme en cours est aussi le fruit de cette histoire. Alors, dans ma position actuelle, je suis bien évidemment au cœur de ces réformes, mais en même temps, je n'ai pas tout le recul nécessaire, et c'est pour ça que Olivier pourra apporter un témoignage qui fera un contrepoint intéressant à mon propos. Nous sommes aujourd'hui dans l'action et parfois nous sommes emportés par l'envie d'engager des réformes importantes dans un délai très court. Reproches qui nous ont été faits, et je crois que ça rejoignait des critiques du président Molinier, c'est qu'il y a eu beaucoup de réformes proposées au même moment, et du coup il y a eu une certaine surcharge, voilà, et qui nous a interrogés sur le rythme auquel nous souhaitions avancer. Alors, je me propose de structurer mon propos de manière très classique, donc j'essaierai de faire un bilan d'étape des réformes que nous avons engagées, et puis je voudrais partager avec vous quelques perspectives ou quelques défis qui nous restent à relever, parce que ce processus n'est pas encore arrivé à son terme. Alors, dans les éléments de bilan qu'on peut faire aujourd'hui actuellement, je crois qu'il y a trois éléments qui me paraissent importants. D'abord, le cœur de cette réforme, c'est l'autonomie donnée aux universités. C'était un pari. Et je pense que ce pari est en passe d'être gagné. Je tenterai de vous convaincre de cela. Deuxième point dans le bilan, c'est qu'il y a un effort sans précédent en faveur de la rénovation de nos campus universitaires. A choisi d'investir massivement sur les sites et avec une approche globale de l'aménagement des campus, ce qu'on n'avait pas forcément fait jusqu'à présent. On avait procédé par petites touches successives avec une juxtaposition de bâtiments sans grande cohérence, et l'objectif que nous avions, c'était tout simplement d'avoir des campus comparables à ce qu'on peut observer à l'étranger. Je sais que la situation parisienne est particulière de ce point de vue-là, mais en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire dans les autres régions. Et puis, troisième élément de bilan, c'est ce que la ministre évoque dans beaucoup de ses interventions, c'est la fierté retrouvée des universités. Alors, le président Molinier pourra en parler bien mieux que moi, mais en tout cas, nous avons quelques indicateurs qui nous montrent qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives
une attractivité retrouvée de nos universités. Voilà pour le bilan. Alors, sur l'autonomie, c'était un défi, je l'ai dit. L'objectif que nous avions n'était pas uniquement de transférer des responsabilités de l'État vers les universités. Il ne s'agissait pas de faire simplement une mesure de déconcentration administrative ou financière. Il s'agissait de laisser aux universités la liberté de s'organiser et au service, bien sûr, des premiers utilisateurs qui sont les étudiants. Alors, cette réforme de l'autonomie, elle est en cours, puisqu'elle n'est pas terminée. Aujourd'hui, 90% des universités françaises sont passées à ce qu'on appelle les responsabilités élargies, responsabilités et compétences élargies. Ça veut dire, grosso modo, un budget global, une masse salariale qui est gérée par l'université et une plus grande liberté dans le recrutement et dans la gestion des carrières, notamment pour les enseignants-chercheurs. Alors, quelques chiffres sans vouloir vous embêter avec ça, mais c'est quand même 125 000 emplois qui ont été transférés. La gestion a été transférée plutôt. C'est plus de 7 milliards d'euros de masse salariale et c'est plus d'un million trois d'étudiants qui sont aujourd'hui concernés et qui étudient dans des universités dotées de l'autonomie. Au-delà des 90% d'universités, il faut rappeler qu'il y a d'autres établissements d'enseignement supérieur qui ont choisi ce statut d'autonomie. Donc il s'agit d'écoles ou ce qu'on appelle les grands établissements, c'est-à-dire des établissements à statut particulier. Et donc aujourd'hui, ce mouvement d'autonomie, il va bien au-delà des établissements universitaires au sens strict. Alors, je l'ai dit, c'est pas uniquement une mesure technique de transfert de la responsabilité sur des établissements publics. Ce qu'on souhaite mettre en avant aujourd'hui, c'est les bénéfices de cette autonomie. On voit aujourd'hui un certain nombre d'initiatives qui sont tout à fait intéressantes et qui n'auraient pas été possibles sans cette nouvelle liberté. Alors, on peut le mesurer de différentes façons. Il y a tout d'abord ce qu'on observe en matière d'initiatives pédagogiques. J'imagine que le président Molinier y reviendra longuement. On voit beaucoup de projets qui touchent à la pédagogie, à l'encadrement des étudiants. C'est directement lié à la capacité de gérer son budget globalement et en utilisant tous les outils modernes de communication. Deuxième exemple de ces bénéfices, c'est tout ce qui concerne l'orientation des étudiants, des lycéens, avant même de passer le baccalauréat, et tout ce qui concerne l'insertion professionnelle des étudiants, qu'ils soient en licence, en master ou en doctorat. Bizarrement, cette fonction d'insertion professionnelle n'existait pas dans la loi. Donc, nous l'avons inscrite dans la loi du mois d'août 2007. Et aujourd'hui, on est très heureux de voir que toutes les universités se sont saisies de cette mission et ont organisé tout tout ce qui peut améliorer l'insertion de leurs étudiants avec des bureaux d'insertion, avec des stages et à tous les cycles de l'enseignement. Troisième exemple que nous observons, c'est la relation que les universités sont en train de tisser avec leurs anciens étudiants. Là aussi, on part d'une situation qui est quand même très particulière par rapport à ce qu'on observe à l'étranger, par rapport à ce qui existe déjà dans les grandes écoles. Et aujourd'hui, donc, on a des universités qui se dotent d'annuaires d'anciens et qui utilisent des réseaux sociaux pour garder le contact avec leurs étudiants. C'est quelque chose qui nous paraît très intéressant. Alors, ensuite, dans les bénéfices de l'autonomie, il y a tout ce qui concerne la gestion interne, mais je ne veux pas rentrer dans le détail, je crois que c'est un peu technique, mais on observe que le fait d'avoir un budget global permet de simplifier la gestion interne et d'avoir un dialogue avec les différentes composantes de l'université. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui dans la plupart des établissements. Dans les bénéfices, on peut voir aussi l'ouverture au monde socio-économique. C'était un objectif important que nous avions en 2007. Et aujourd'hui, il y a plus de 200 représentants d'entreprises qui sont membres de conseils d'administration de l'université. Il y a près de 40 fondations universitaires qui sont financées notamment par des entreprises. Aujourd'hui, quand on fait la somme des financements qui sont attendus par ces fondations, c'est plus de 60 millions d'euros. Donc on a une ouverture au monde économique qui est tout à fait intéressante. Dans les bénéfices, il y a aussi l'ouverture à l'international. Alors, il y avait déjà des choses avant l'autonomie, mais on constate que l'autonomie a été un accélérateur. Et on voit aujourd'hui des professeurs étrangers de renommée internationale qui viennent enseigner dans nos universités, et pas uniquement à Paris. C'est la liberté que nous avons donnée pour rémunérer correctement ces professeurs étrangers. Voilà. Alors, dans le domaine de la gestion, on peut citer également tout ce qu'on a fait pour la carrière des anciens chercheurs. Ça n'a pas été forcément reconnu par tous, mais il y a eu des efforts importants pour revaloriser les rémunérations, notamment en début de carrière, pour accélérer les promotions, que ce soit pour le personnel enseignant-chercheur, mais également pour le personnel administratif, qui avait des déroulements de carrière assez, malheureusement, pas très dynamiques. La liberté que nous avons donnée aux universités pour verser des primes, que ce soit à leur personnel administratif ou à leur personnel enseignant-chercheur, était pour nous un élément important pour avoir une gestion des ressources humaines plus proche du terrain et plus dynamique qu'auparavant. Donc sur l'autonomie, aujourd'hui les progrès sont notables. On ne sait pas toujours que les comptes des universités sont certifiés, l'université autonome, ont des commissaires en compte, avec des cabinets d'audit qui regardent leurs comptes. Donc, comme une entreprise, j'allais dire, même si il ne faut pas pousser trop loin l'analogie. Et puis, il y a une étape importante de l'autonomie que nous avons engagée, mais sur laquelle nous ne sommes pas encore au bout du processus, c'est la gestion du patrimoine. L'université autonome doit pouvoir gérer elle-même son patrimoine, doit être propriétaire de son patrimoine immobilier. Nous avons pour l'instant transféré la propriété du patrimoine à 3 universités. Alors, c'est 3 sur 83, c'est pas beaucoup, mais on l'a fait avec les universités qui étaient volontaires. Et donc nous prenons le temps. C'est un sujet délicat. Le patrimoine que nous transférons n'est pas toujours en bon état. Donc, nous faisons l'effort de remettre à niveau le patrimoine avant de le transférer. C'est ce qu'on a pu faire pour certaines universités qui avaient un patrimoine bien entretenu et récent. C'est beaucoup plus difficile à faire à Paris, par exemple, où les situations sont très imbriquées avec un patrimoine qui est très ancien. Mais nous le ferons avec toutes les universités qui le souhaiteront. Et aujourd'hui, nous avons une petite dizaine d'universités qui nous ont demandé à travailler sur la gestion de leur patrimoine. Alors, dernier point de bilan sur l'autonomie, c'est que pour l'État, ça a obligé à un changement complet d'organisation et de relations. Et la mutation, elle a dû se faire non seulement dans les établissements, mais elle a dû se faire également dans les services de l'État. Et je peux vous dire qu'elle n'est pas totalement achevé de ce point de vue. Ce sera intéressant de voir également le point de vue du président Molinier. Alors, ce que nous avons essayé de faire du côté de l'État, c'est d'abord mettre le contrat au cœur de la relation entre l'État et l'université. C'est ce qui lie chaque établissement avec un engagement pluriannuel et sur la base d'un projet bâti par chaque établissement. Et donc nous avons passé les premières années à rebâtir un contrat beaucoup plus stratégique et en prenant le temps de bâtir le projet. Deuxième évolution importante pour l'État, c'est d'accepter le transfert de la gestion. Et donc, l'objectif pour nous est de ne pas reprendre d'une main ce que nous avons octroyé de l'autre. Donc, pour nous, ce qui est transféré n'est plus à reprendre et l'État a dû faire son deuil d'une certaine façon d'un certain mode de gestion en passant par exemple du contrôle a priori au contrôle a posteriori et je peux vous dire que ça n'est pas encore totalement acquis que ce soit au niveau local ou au niveau national. Et puis, l'autre évolution importante pour l'État, c'est tout ce qui concerne l'évaluation. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'autonomie sans évaluation. C'est vraiment le corollaire de tout ce qu'on a fait. Et donc, nous avons souhaité mettre l'évaluation au cœur de cette réforme. Mais c'est une évaluation qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qui se faisait avant. Auparavant, c'est l'État qui évaluait lui-même. Aujourd'hui, c'est une agence indépendante qui évalue les formations, les activités de recherche, les établissements. Et donc, là aussi, c'est l'État qui a, qui a dû transférer une partie de ses missions, et on voit bien que ça s'est pas fait de manière totalement spontanée. Voilà le bilan qu'on peut faire aujourd'hui de l'autonomie, et je reviendrai tout à l'heure sous l'angle des défis qui restent à relever. Deuxième point qu'on peut souligner dans ce bilan, c'est l'effort de rénovation de nos campus universitaires. Alors c'est un effort dans la durée, donc on n'en voit pas encore les résultats. En plus, on a utilisé des méthodes financières un peu nouvelles, puisqu'on a associé largement l'initiative privée à la rénovation de nos campus à travers des partenariats publics-privés. Mais les moyens sont là, et on a essayé d'avoir une approche globale de l'aménagement d'un campus universitaire, avec souvent des campus dans la ville, ce qui pose des problèmes d'insertion dans l'environnement urbain. Et c'est pour ça qu'on a mis le temps, on a pris le temps pour faire les études. Nous a occupé en 2008 et en 2009, et nous sommes dans certains cas encore en phase d'étude, mais dans beaucoup de sites, les premières réalisations démarrent, et c'est ce que nous avons appelé l'opération Campus. Alors, il y a un choix qui a été fait, qui était politiquement pas facile à assumer, puisque nous avons décidé de concentrer nos moyens sur une dizaine de grands sites universitaires. Sachant que pour les autres, il restait des financements récurrents, mais qui n'avaient pas l'ampleur de ce que nous avons fait pour les grands sites. Donc c'est un effort financièrement important, mais qui est également assez nouveau. Donc ça nous a valu là aussi pas mal de critiques. Puisque on n'a pas fait comme on avait l'habitude de faire, notamment avec les collectivités locales qui jouent un rôle important en matière d'entretien des bâtiments universitaires. Et donc, ça a mis un peu de temps à se mettre en place, mais aujourd'hui, donc sur les 10 sites qui sont concernés, les chantiers sont largement engagés. Dans cet effort de rénovation, on n'a pas oublié le logement étudiant, où nous avions beaucoup à faire. Nous sommes en phase là aussi de rattrapage d'une période un peu de sous-investissement, et il reste encore beaucoup à faire. Alors, troisième élément de bilan, c'est ce que j'appelais la fierté retrouvée. Alors, pour pouvoir dire ça, on s'appuie sur un certain nombre de signaux qui nous paraissent assez positifs. Alors, dans ces signaux, il y a d'abord celui des inscriptions à l'université. Tous en tête des chiffres de baisse du nombre d'inscriptions à l'université ces dernières années. Et aujourd'hui, ces chiffres, ces tendances se sont inversées, puisque depuis 2 ans, nous avons une augmentation du nombre d'inscrits à l'université. Alors, ce ne sont pas des progressions spectaculaires, mais c'est quand même plus 1,5% par an. Et donc, ça. Pour nous, c'est un élément de l'attractivité retrouvée des universités. On le voit également pour les lycéens en terminale qui, aujourd'hui, doivent s'inscrire dans un portail qu'on a appelé admission post-bac. Et aujourd'hui, dans les vœux qui sont faits par les lycéens, il y a une très forte augmentation des vœux en faveur de l'université. dont la fierté est retrouvée, il y a également tout ce qui concerne donc les initiatives prises pour lutter contre l'échec en premier cycle. C'est une donnée qui existe, qui a été largement commentée, même si les chiffres qu'on peut lire dans la presse ne correspondent pas forcément à la réalité qu'on observe, puisqu'on oublie de dire qu'il y a des réorientations possibles, et d'ailleurs qu'on veut encourager le plus tôt possible, et donc y compris à la fin du premier semestre de la première année universitaire. Et donc il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises pour réduire le taux d'échec, que ce soit à la fin de la première année de la licence ou à la fin de la troisième année de la licence. Donc je ne reviens pas sur tout ce qui a été fait, mais je pense qu'on aura des exemples concrets tout à l'heure. En tout cas, nous avons donné des moyens supplémentaires aux universités pour améliorer l'encadrement des étudiants, pour mieux les accueillir donc en début d'année universitaire, pour renforcer les travaux en TD, en travaux dirigés, et pour tutorer aussi les étudiants qui en ont besoin. On observe aussi pas mal de nouvelles formations, beaucoup plus pluridisciplinaires, des bi-licences, des bi-diplômes, là aussi qui contribuent à la réduction des taux d'échec et qui permettent d'avoir une orientation beaucoup plus progressive au cours du premier cycle universitaire. Enfin, dans la fierté retrouvée, je mentionnerai les rapprochements entre universités entre elles, mais aussi entre universités et écoles, et on voit bien que ces rapprochements se font sur des bases beaucoup plus équilibrées qu'auparavant, et aujourd'hui nous avons 83 universités, plus de 220 écoles. Aujourd'hui le paysage universitaire français est en train de se réorganiser autour d'une vingtaine de grands pôles universitaires qui couvrent l'ensemble du territoire, et là aussi, c'est un point important qui montre que ces rapprochements se font sur la base du volontariat et sous des formes juridiques, d'ailleurs, qui sont assez différentes. Alors, dans les défis à relever, parce que l'heure tourne, j'en citerai rapidement trois. D'abord, poursuivre l'effort que nous faisons sur la professionnalisation des cursus universitaires. Il reste encore beaucoup de choses à faire, que ce soit au niveau de la licence, au niveau du master, et également au niveau du doctorat, et puisque nous souhaitons que ces diplômes débouchent sur l'emploi. On commence à mesurer d'ailleurs les taux d'insertion au niveau du master et au niveau du doctorat. On est en train de le faire au niveau de la licence. Et nous souhaitons que ces données soient publiques, parce que c'est une information que nous devons aux étudiants, à leurs familles, et nous avons commencé à le faire. Et sur la licence, nous poursuivons l'effort qui a été fait, avec un objectif important pour la ministre, qui est de pouvoir annoncer d'ici l'été une réforme importante de la licence. Qui d'ailleurs intègre l'ensemble des formations post-bac, que ce soit les BTS, les classes préparatoires aux grandes écoles ou encore les IUT. Deuxième défi à relever, c'est celui de la gouvernance. Alors c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, mais nous pensons qu'il y a encore améliorations possibles. Nous avons ouvert les conseils d'administration à des personnalités qualifiées. Aujourd'hui, aujourd'hui, ces personnalités qualifiées ne peuvent pas voter pour le président de l'université. Ça n'est pas prévu dans la loi de 2007. Et aujourd'hui, nous le regrettons un petit peu. Et donc, nous souhaitons aller plus loin dans l'ouverture de ces conseils d'administration à des représentants extérieurs. C'est la suite d'une tendance qu'on observe, mais qui doit s'amplifier. Sur la gouvernance aussi, nous voyons que les rapprochements entre universités ou entre universités et écoles se font selon des modèles qui sont assez différents. Nous pensons qu'il n'y a pas un seul modèle d'organisation, mais on est attentif à ce qu'il y ait au moins des principes communs à tous ces regroupements. Enfin, un troisième défi à relever, c'est celui de l'attractivité internationale. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu un ensemble d'évolutions intéressantes, mais aujourd'hui, c'est un véritable défi. Il faut que nos universités aient des marques, que ces marques soient connues, non seulement pour nos étudiants français, mais également pour les étudiants du monde entier. Vous savez qu'il y a des classements internationaux qui jouent un rôle important aujourd'hui et nos universités n'ont pas encore gagné en visibilité dans ces classements. Et nous attendons beaucoup des regroupements en cours, et notamment à Paris, pour que nos universités gagnent encore en visibilité. Dans cette attractivité internationale, il y a la recherche, bien évidemment, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il faut que nos universités, qui sont désormais au cœur de notre dispositif de recherche, soient beaucoup plus visibles sur la recherche. C'est le sens de l'investissement que nous faisons aujourd'hui à travers ce qu'on appelle le grand emprunt, qui a permis de doter nos laboratoires universitaires et qui sont reconnus par des jurys internationaux. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur le bilan qu'on peut faire aujourd'hui et puis quelques perspectives qui montrent qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais je fais confiance au président Molinier pour apporter un contrepoint à ce que je vous ai dit aujourd'hui. Merci.
Voilà, merci beaucoup Monsieur Pagési pour la présentation de ce processus en cours. On a bien compris qu'il va porter des fruits à long terme. Le cœur de la réforme, c'est l'autonomie des universités. Vous nous en avez dit, vous êtes rentré bien dans les détails. L'effort en faveur de la rénovation des campus, la fierté renouvelée des universités. Ça, c'est les trois éléments qui vous semblaient importants du bilan. Et puis, on a bien entendu aussi les défis à relever, celui de la professionnalisation des cursus, celui de la gouvernance et celui de l'attractivité internationale. Alors, Monsieur Molinier, sur le terrain d'une université, comment on reçoit tout cela ?
Bien, je vais dire des choses légèrement différentes de ce qu'a dit Monsieur le directeur du cabinet, mais pas forcément contradictoire, et en tout cas, en aucun cas polémique. Hein. Alors je m'insère dans ce qu'il a dit, donc il y a des choses que je ne vais pas du tout reprendre. Je vais faire un panorama à ma manière, avec l'idée qu'il va équilibrer celui-là, et puis vous penserez ce que vous voudrez. D'abord, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé au printemps 2009. Au printemps 2009, l'université a été plus bloquée qu'en 1968. Une grande partie des universités scientifiques et littéraires, donc ça fait, il en reste beaucoup qui n'étaient pas, ont vu leur cours interrompu pendant 4 ou 5 mois. J'ai été un des leaders de ce mouvement. Je suis fier de l'avoir été. Voilà une fierté. Et nous avons défilé dans de plus grandes villes de France pendant des semaines et des semaines, au milieu d'une désinformation complète, honteuse, de la presse française, de toute la presse française. Et le résultat, enfin, ce qui se passait, c'est qu'on disait d'une part qu'on n'existait pas, et d'autre part que c'était catastrophique ce qu'on faisait. Alors c'était déjà contradictoire, je suis quand même professeur de rhétorique. Il y avait déjà une contradiction à cet égard. Ce que j'ai trouvé que je trouve. Je vais expliquer après contre quoi nous nous battions. Parce que là, j'ai pris une ambiguïté et je veux vraiment la lever. Ce que je trouve un peu fort de café, c'est qu'il n'y a pas un article aujourd'hui, dans aucun journal, parlant du recrutement des instituteurs, enfin des professeurs des écoles, des lycées et des collèges, qui ne commence par une phrase du type « Malgré le caractère catastrophique et calamiteux des réformes de 2009, gna 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 gna. » Bon, il aurait mieux valu qu'ils le disent en 2009 plutôt que maintenant. Ce contre quoi ce mouvement s'est développé, disons, c'est double. Une partie des choses, vous l'avez dit d'ailleurs, monsieur le directeur, d'une part, c'est qu'il y avait, en effet, c'est un choix, une avalanche de réformes, présentées toutes à la fois, d'ordre tout à fait différent d'ailleurs. Et cette avalanche de réformes, en soi, a suscité, ce qu'on peut comprendre, un certain nombre de réactions. Nous sommes le seul corps social, avec la défense nationale, qui avons subi, depuis 1970, autant de réformes permanentes. Et vous venez de nous annoncer d'autres. C'est pas vivable. Nous formons des gens, nous, sur 20 ans, sur 30 ans. Nous faisons des gens de la durée, nous sommes des gens de la civilisation. Nous sommes des gens de la réflexion. On ne peut pas, comme ça, absorber des réformes en permanence. Et alors, cette accumulation a été fâcheuse. Ça a suscité des réactions de tous ordres, certaines purement réactionnaires et corporatives, je suis tout à fait d'accord d'ailleurs avec ce que certains ont dit. J'ai constaté d'ailleurs que c'était celles-là qui ont été satisfaites les plus tout de suite. Hein. Les réformes les plus fondamentales du point de vue du fonctionnement des corps des enseignements supérieurs, celles qui sont heurtées aux réactions les plus réactionnaires, pour parler clair, c'est les professeurs de droit, qui ont appris ce que voulait dire le mot grève, qui ont appris ce que voulait dire le mot tract, qui ont appris ce que voulait dire le mot manifestation, on leur a donné satisfaction tout de suite. Ce contre quoi nous nous sommes battus massivement. On ne met pas des milliers, des centaines de milliers de gens dans la rue comme ça pendant des mois pour rien. C'est une réforme dont le ministère de l'Enseignement supérieur n'est en aucun cas responsable. C'est une réforme de l'éducation nationale, une réforme de Xavier Darcos, qui a consisté à faire, je l'ai dit, la plus grande attaque qu'on a jamais vue contre l'école publique depuis 70 ans. C'est-à-dire qu'on a supprimé une année de formation pour les enseignants de l'enseignement public et on a enlevé une année de stage payé à leur égard. C'était à la fois, et c'est resté une agression sociale et une régression technique. Et cette réforme-là, elle n'a rien à voir avec les réformes de Mme Pécresse, rien du tout à voir, elle est restée et maintenant on en paye les pots cassés. Nous recevons tous les présidents d'université des lettres pitoyables, larmoyantes, des secrétaires généraux des rectorats qui nous disent « Ah voilà, nous sommes confrontés à des difficultés de recrutement des enseignants, comment faire, venez nous aider ?» On avait envie de leur dire, après tout, il y avait des systèmes pour, comme ça, hein, ça s'appelle les UFM, ça s'appelle le CAPES, ça s'appelle la régression, c'est notre métier de le faire, il valait mieux ne pas le casser, et après venir se plaindre de ce qui se passe. Voilà ce qui s'est passé en gros en 2009, je voulais le rappeler, vous voyez bien que l'essentiel n'était pas du tout une opposition globale et massive aux réformes de Mme Pécresse. Donc, je préfère le dire, même si je ne suis pas d'accord sur tout avec le ministre, c'est bien normal, mais c'est quelque chose que je veux rappeler pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Alors, l'autonomie, c'est pas si simple. Je crois qu'il y a peu de gens qui sont contre l'autonomie comme telle, ce qui fait que ça n'a pas suscité immédiatement des cris d'enthousiasme dans toutes les universités et chez tous les présidents, et ce n'est pas une question politique du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est que pour avoir l'autonomie, il faut des moyens. C'est comme la liberté économique. Nous avons davantage de liberté pour recruter des gens et les payer très fort, mais nous n'avons pas davantage d'argent pour ça. Ça va, du tout. Donc, il faut quand même penser à ça. Il y a un problème, mais voilà, je dis ça, hein, ce qui veut dire qu'il n'y a pas du tout de mouvement d'aucune sorte d'opposition à la pensée même de l'autonomie. Au contraire, nous sommes même quelques-uns, je parle des présidents d'université, nous sommes quelques-uns à considérer que nous avons maintenant plus de contrôle qu'avant, nous sommes davantage contrôlés par les rectorats, ce qui est une régression complète. Et c'est une question de renforcement des contrôles. Et ça ne facilite pas vraiment pas la vie. Il va y avoir, mais je ne suis pas un homme du passé, je vais parler de l'avenir, et l'avenir est radieux, comme chacun sait, et je vais le présenter comme tel, sans la moindre ironie. J'ai quand même été deux fois président de la Sorbonne, et c'est ni par hasard, ni pour faire rien. Surtout pas pour aller derrière. On a un problème, je vais dire autrement ce que vous avez dit, mais je ne dis pas le contraire à ce que vous avez dit. On a un problème de financement. Il faut quand même savoir que d'ici un an ou deux, le financement quotidien du fonctionnement normal, habituel, terre à terre de l'université, est très peu assuré. S'il n'y a pas, d'ici un an ou deux, et vous voyez bien en disant d'ici un an ou deux, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on arrive en pleine année électorale, présidentielle, un changement radical que quelques gouvernements que ce soit devront bien assurer sur le fonctionnement quotidien de l'université, il y aura de très 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 gros problèmes dans leur fonctionnement. Et ça, tous les présidents le savent maintenant. Nous constatons un transfert de charges colossales qui est calculé sur des fonctionnements qui sont ric-rac et par rapport auxquels il est bien évident que, comme nous sommes en fonctionnement constant, nous n'avons aucune perspective de développement, voire nous pouvons fermer des filières pour faire fonctionner ceci ou cela. Je parle des fonctionnements indépendamment de ce que vous avez indiqué et que personne ici ne niait, les grands subventionnements choisis sur les grands thèmes dont vous avez parlé tout à l'heure. Non, je parle du fonctionnement quotidien. Je suis un cutéreux, moi, du terrain, c'est tout. Si on regarde maintenant les perspectives, qu'est-ce que c'est une université ? Université, alors là, je sais qu'on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas une catastrophe. L'université n'est pas une école supérieure professionnelle. Il y en a qui le sont, ce sont les facs de droit et les facs de médecine. Mais une fac de sciences, une fac de lettres, ça n'est pas une école supérieure professionnelle. Les anglo-saxons ont compris ça depuis très longtemps. Ils forment à Cambridge ou à Yale des gens qui sont spécialistes de Platon, et on les retrouve éventuellement ensuite dans les boards de Coca-Cola ou les entreprises de ce genre-là. Parce qu'en quelques mois, on les forme à faire du management. Je crois que la pensée de l'insertion professionnelle, et elle n'est pas, ce que je dis là n'est pas du contradictoire du tout avec ce que vous faites au cabinet, M. Bagési. Ça a été présenté d'une manière qui ressemble bientôt plutôt à un gadget, alors que ce qui est important, c'est ce que vous favorisez, ce que nous faisons nous, c'est-à-dire faire comprendre au MEDEF, qui n'est pas d'un progressisme absolu dans la matière par rapport à leurs homologues des autres pays, faire comprendre au MEDEF, mais Laurence Danon, par exemple, numéro 2, comprend très bien ça. Les gens de Pricewaterhouse comprennent très bien ça aussi. Que ce qui est intéressant pour eux, surtout que d'ici quelques années, ils vont avoir un turnover colossal de cadres, et ils ne vont pas pouvoir les recruter, même avec les gens d'HEC. Donc, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes d'inventivité des managers. Un manager inventif, ce n'est pas quelqu'un qui sort d'une école de commerce. Un manager inventif, c'est quelqu'un qui éventuellement a fait du latin et du grec et qui est capable de réfléchir. Eh bien, on peut, avec des réflexes, des connexions, ce que font les anglo-saxons, avec de très grands managers, imaginer qu'on fait une articulation, et on le fait, vous le savez, vous nous aidez pour ça, avec quelques très grandes entreprises pour pouvoir former des gens de haut niveau qui ont par exemple un master en philosophie, et bien avec un master en philosophie, on peut en 6 mois le former à un niveau de quelqu'un qui sort d'une grande école de commerce. Alors nous sommes là, nous, pour former quoi ? On est là pour former des gens intelligents. On est là pour former des gens qui ne sont pas des machines. On est là pour former des gens qui ont l'esprit critique, qui ont l'esprit de liberté, voire l'esprit de rébellion. Il faut le garder, il ne faut pas raconter l'histoire. Tous les régimes dictatoriaux ont supprimé les universités, ont supprimé la philosophie, ont supprimé la pensée critique. Nous, non, parce que nous sommes une société démocratique. Et que la vocation de l'université, c'est d'offrir au plus grand nombre possible. Je suis à la fois pour l'université de masse, moi, et pour l'université d'élite. Je suis pour les deux. Et ce n'est pas facile à faire. C'est ça le vrai défi. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul pour les pays un peu civilisés. Et ça coûte cher. Mais justement, c'est pour ça que vous trouvez de l'argent. Et je vous en suis reconnaissant. Ce plus grand nombre d'étudiants-là, il doit avoir des compétences de haut niveau dans les disciplines de la durée. Les disciplines qui font réfléchir sur ce qui se passe dans la durée. Ceux qui apprennent la différence. Ceux qui apprennent le respect des autres. Ceux qui propagent une culture du respect. Et il me semble quand même qu'on en a besoin, me semble-t-il, ces temps-ci. Et ça, c'est ce pourquoi nous sommes faits. C'est notre seule justification. Et comme le disait Claude Allègre, nous sommes là uniquement, vous l'avez rappelé, ça m'a fait plaisir que vous le disiez en reprenant cette parole de Claude Allègre, nous sommes là uniquement pour les étudiants. L'étudiant, c'est le cœur même du dispositif. Ça, c'est pour moi l'horizon. Je suis président de l'université pour faire ça, et rien d'autre. Et puis pour le rappeler à temps et à contre-temps. Il m'est arrivé de le rappeler à contre-temps, mais j'ai bien fait de le faire. Un autre axe important, Mais vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction avec ce que dit M. Pagési. Simplement, c'est une perspective un peu différente, quoi, mais qui, voilà, que j'accroche. C'est que, vous l'avez évoqué à la fin, il n'y a pas d'enseignement supérieur sans recherche. Je trouve qu'en France, nous avons deux tares, deux arriérismes fondamentaux pour la pensée d'enseignement supérieur qui n'existent dans aucun pays civilisé, sauf chez nous. La dichotomie entre ce qu'on appelle les grands établissements d'un côté, avec des classes préparatoires, et les universités, c'est quelque chose qui fait plaisir aux Français, mais qui est un arriérisme international incroyable et qui sert à fonctionner, à reproduire des moules qui reproduisent des moules qui reproduisent des moules. Je veux dire la même chose, hein, pas le mollusque, mais la même chose. Et dans les pays civilisés, ce genre d'établissement font partie des universités, enfin, c'est tout. Hein, bon. Songez que, et vous le savez bien, M. Pagési, plus de la moitié des ingénieurs sont faits maintenant en France dans les universités. Et puis la deuxième tare, c'est l'autre dualité. C'est des grands établissements de recherche d'un côté, l'université de l'autre. C'est absolument aberrant. C'est une déperdition incroyable d'énergie. Et je sais que, je le dis d'autant plus vraiment que pour beaucoup de points, je sais que les réflexions de fond du cabinet et les miennes ne sont pas contradictoires. Chacun joue son rôle. Hein. Et là aussi c'était Claude Allègre qui avait lancé cette idée-là, l'un des chantiers, mais un chantier qui peut être Roger de Sisyphe en France, c'est bien le rapprochement, je sais que vous y travaillez, un rapprochement de ces deux dualités qui, tant qu'elles existeront, feront plaisir au lobby des élites, cette fois au sens social du mot, pas au sens intellectuel français, mais qui nous déclasseront toujours par rapport aux autres grands pays qui sont nos partenaires. La recherche est consubstantielle à l'université. Consubstantielle. Alors, parmi les perspectives vraiment d'avenir, il y en a une dont vous avez parlé, et je vais m'y raccrocher, une que vous avez vraiment, je crois, par gentillesse, vous m'avez laissé en parler, parce que c'est une idée qui vient de votre ministre, par conséquent, voilà, je l'assume. Et vous savez, les bonnes idées, c'est celles qu'on vous pique. Quand on vous pique vos idées, c'est ce que vous avez gagné. Donc, voilà, moi, pas de vanité d'auteur. C'est la question de la licence. On peut dire... Pardon ? Je peux continuer. Bon. On peut dire que, grosso modo, l'université française fonctionne bien du point de vue de ce qu'on appelait autrefois le troisième cycle, c'est-à-dire en gros le doctorat. En gros. Nous sommes vraiment là de niveau très 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 international. Nous fonctionnons pas trop mal du côté du point de vue du master. Mais nous sommes très problématiques, me semble-t-il, au sens massif, du côté de la licence. La licence au sens actuel du mot, c'est-à-dire les trois premières années de l'université. Vous imaginez qu'il y en ait quatre, ce n'est pas une catastrophe. Et l'un des chantiers de la ministre, et là c'est un chantier que nous partageons complètement, c'est rénover la licence. Alors, il y a plusieurs façons de rénover les licences. C'est plusieurs façons de faire des réformes. On peut en faire tellement de propositions de réformes qu'on décourage tout le monde et qu'on braque tout le monde contre soi. C'est comme si vous disiez, maintenant, devant les étudiants, est-ce qu'on augmente les droits des inscriptions, est-ce qu'on fait une sélection à l'entrée? Vous avez des barricades dans la rue tout de suite, donc ce n'est pas la peine d'en parler. On rentre chez soi et on attend que ça passe, et on passe ça aux successeurs, qui attendront que les successeurs règlent le problème, etc., etc. Donc on ne fait rien. Bon. L'autre aspect qui est malin, c'est sur lequel nous sommes tous attachés, c'est, au fond, de proposer deux modèles parallèles. Je pense qu'aujourd'hui, je vais dire différemment ce que vous avez dit, qu'aujourd'hui se construit un système à deux modèles parallèles de licences. Les licences que nous connaissons bien, les licences très générales, très, 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 très généralistes, licences de sciences, licences de lettres modernes, licences de sciences éco, ce genre de choses, dans lesquelles vont des quantités de personnes, et dans lesquelles on fait des cours tellement généraux et massifs, mais on pourrait faire des cours généraux qui ne soient pas massifs, qu'une grande partie des étudiants qui sont là se demandent qu'est-ce qu'ils font et ils attendent aussi que ça passe. Bon. Cela dit, même par rapport à ça, moi je défends quand même le système. Je suis là pour défendre le système. Il vaut mieux avoir suivi 3 années lettres modernes à la Sorbonne que 0 année. C'est tout. On n'est plus chômeur. On a subi 3 années de lettres modernes, puis on a subi 0 année. Il ne faut pas raconter l'histoire. N'empêche que c'est un investissement énorme pour une rentabilité faible, je veux bien. Et c'est pour ça que se mettre sur pied, avec votre aide, ce qu'on appelle des nouvelles licences, qui sont souvent ce qu'on appelle des licences renforcées ou des bi-licences, qui sont des licences de type, mettons, lettres, sciences, philosophie, droit, histoire, épistémologie, enfin des quantités que nous faisons, nous, avec Paris 2 et Paris 6, je vais revenir sur ce point dans quelques instants, et ces bi-licences qui sont prises d'assaut. Dans le dernier post-bac, elles sont toutes pleines. Disons. Ce sont des licences à capacité d'accueil. Vous me voyez venir. Licences à capacité d'accueil, dans lequel on dit d'emblée, pour faire ça, il faut vraiment s'accrocher. Il faut être motivé, il faut être travailleur, il faut en vouloir. Donc, c'est pas, si vous voulez vraiment passer le temps, être là dilettante et avoir la carte d'étudiant, ce n'est pas la peine. Il faut travailler. Et je crois que c'est ça, l'avenir. Peu à peu, nous allons vers une diversification des propositions de licence qui, bien sûr, multiplient. Alors là, pour le coup, vraiment, les possibilités d'insertion ensuite à quelque niveau que ce soit pour former des gens très haut niveau. Et puis, le dernier point, si j'ai encore quelques minutes, que je voudrais indiquer, parce que là, M. Pagési est très, très discret. Or, c'est vraiment, c'est un des succès, moi, je trouve, là, de Valérie Pécresse. C'est que, vous l'avez indiqué à votre manière, je vais le faire à la mienne. Nous sommes en train de faire une autre révolution, à mon avis, bien plus considérable. Et que, sauf peut-être vous, en tout cas, nous n'avions pas prévu. Moi, c'est ma 4e année de présidence, là. Je peux vous dire que lorsque j'ai été élu président, on ne parlait ni de la réforme de la formation des maîtres, ni de la recomposition du paysage universitaire français. Bon. Donc, je n'ai pas été élu, moi, pour passer mon temps à me balader sur le boulevard Montparnasse avec les étudiants. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez dit 83 universités, il ne faut pas raconter l'histoire. Est-ce qu'il y a 83 véritables universités? Je réponds d'emblée, et c'est moi qui suis progressiste et de gauche, bien sûr que non. Bon. Il y a, moi qui pense qu'il n'y a jamais trop d'étudiants, même jamais assez, il y a une entreprise énorme, colossale, qui ne fait que commencer, mais qui va s'accélérer et qui peut-être s'achèvera plus tôt qu'on ne croit. De recomposition du paysage autour de ce qu'on appelle des pôles de recherche d'enseignement supérieur, qui sont des rassemblements d'universités pour aboutir à faire des universités fédérales. Enfin, moi, je ne suis pas juriste, parce qu'il faut dire confédéral ou enfin, fédéral, ça, je n'ai pas de revendication de vocabulaire. Je vous donne simplement un exemple, bien sûr celui que je connais le mieux. Nous sommes en train de réunir les 3 plus grandes universités dans leur domaine scientifique, sciences humaines et juridiques de France, l'UPMC, Pierre et Marie Curie, qui est la plus grande université d'Europe, Panthéon-Assas, qui est la plus grande faculté de droit, et puis Paris-Sorbonne. Je vous signale tout de même que Paris-Sorbonne est classé par Coquerel et Simon dans les Britanniques. Nous sommes les seuls à apparaître comme tel, comme université littéraire, au 13e rang mondial. Dans la catégorie arts et sciences humaines, il n'y a aucun établissement français qui figure, sauf nous, d'ailleurs, ni l'école normale supérieure, ni l'IHESS, ni Paris 1, ni rien du tout. Nous sommes les seuls à y figurer. Hein. Bon, donc, nous sommes tout à fait contents. Alors, donc, ce regroupement-là, qui s'appelle Sorbonne Université, est destiné à devenir, mais dans un temps assez court, hein, je crois, M. Pagési, je crois, à mon avis, d'ici 3-4 ans, hein, une université unique. Donc nous allons beaucoup plus vite que nous pensions, et bien sûr, ça va supposer un système de gouvernement différent. Dernier point, et je rejoins la question du financement. Il se passe une deuxième révolution, en même temps, et qui est, il faut le revendiquer, ça, c'est une idée sur laquelle tous les gens qui réfléchissent, qui sont un peu inventifs, comme nous devons l'être, sont reconnaissants au gouvernement de le faire, et si je le dis moi, c'est que vraiment on peut me croire, c'est le concours international des initiatives d'excellence, qui est présidé par M. Rapp, l'ancien président de Lausanne, et qui est en train de répartir, alors là, pour le coup, des sommes vraiment énormes que les universitaires français n'ont jamais vues, et qui n'ont pas la moindre idée, sur des projets scientifiques, pédagogiques et de vie étudiante. Moi, je suis très attaché à cette question de la vie étudiante. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait sans précédent, qui, à mon avis, va contribuer avec les universités confédérées comme je vous en ai donné un exemple, à changer, mais totalement, la donne du fonctionnement des perspectives financières de l'université française, et on peut dire, c'est ça que je veux dire, ça en revanche c'est moins gai, mais il faut le dire, les universités qui ne seront pas dans le coup, elles, à mon avis, seront vraiment en danger pour la durée. Il vaudra mieux un être que pas un être. Voilà ce que je voulais dire. Il y a donc un nouveau format de fonctionnement qui se met en place, donc tout n'est pas calamiteux. Moi, de toute façon, moi, je suis un joyeux pessimiste, je n'ai que de bonnes surprises. Et il y a en ce moment quelque chose qui est véritablement une révolution intéressante, qui va nous mettre enfin à un format international, parce que lorsqu'on aura fait ces regroupements-là, lorsqu'on aura fait fonctionner ces initiatives d'excellence accrochées aux grands pôles universitaires, on ne pourra pas continuer à faire l'arriérisme français et cette espèce de double dualité canadien-ministre dont je parlais tout à l'heure. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Molinier, de nous avoir partagé votre optimisme enraciné dans la réalité.
Raisonné.
Voilà, oui, on a vu qu'il était tout à fait raisonné. Je souligne un peu les thématiques qui traversent tout ça. C'est la question, évidemment, des moyens du financement, la question des objectifs, finalement, pourquoi l'université, quel est son but, la question du lien entre l'enseignement supérieur et la recherche. Et à partir de là, eh bien, on essaye d'ouvrir quelques perspectives. Celui de la diversification des propositions de licence, les pôles de recherche d'enseignement supérieur, et puis eh bien, le nouveau format international avec le concours international d'excellence. On voit qu'il y a des choses qui se cherchent pour imaginer l'avenir. Il est temps que la parole puisse circuler aussi entre nous, peut-être pour poser des questions d'éclaircissement, et puis aussi pour donner votre avis. Il y a un certain nombre d'universitaires dans la salle. Alors, on prend quelques questions. Ah, tout le monde reste quoi? Ah, voilà, il y en a quand même, parce que je m'étonnais aussi. Voilà, donc, Emmanuel.
Donc, merci de me donner la parole. Je vais juste préciser deux petites choses sur l'intervention de M. Pagési. Vous avez mélangé un petit peu plusieurs réformes qui sont faites en 2007.
Mets ton micro un tout petit peu plus loin.
Voilà. Qui sont faites en 2007, voilà. Ouais, qui sont voilà, faites en 2007.
C'est toujours la bonne distance qu'il faut trouver.
Donc, tout ce qui était sur l'histoire de pédagogie, l'histoire d'orientation professionnelle, elle faisait partie du plan licence. On aurait pu avoir l'autonomie, on aurait pu ne pas l'avoir, ça aurait été la même chose. Ces plans, le plan sur la pédagogie ou l'insertion professionnelle aurait été fait. Sur les comptes, vous avez dit que il y a une revalorisation du patrimoine, certes, mais de l'autre côté, il y a quand même eu des facs qui sont presque à la limite de la cessation de bilan, qui étaient Limoges, parce qu'il y a eu des mauvaises gestions du personnel et notamment de tout ce qui était le vieillissement et la technicité, donc le fait que les gens progressent dans leur carrière. Je sais que Reims a failli passer pas loin. Donc, moi, j'aurais trois questions. La première, c'est est-ce que finalement la faillite, vous appelez les classements à chaque fois, est-ce que la faillite des universités dans le classement, ce n'est pas la faillite d'un modèle qui est basé sur les grandes écoles, parce que les grandes écoles y apparaissent peu, et c'était elles qui avaient énormément d'intensité financière. Donc ça, c'est ma première question, elle se pose aux deux. La deuxième, c'est par rapport au sens de l'intérêt public qui est véhiculé maintenant au sein de l'université, puisque l'université doit former des étudiants et des chercheurs, mais aujourd'hui, avec les plans de ressources humaines, la seule compétence valorisée, c'est la recherche. Aujourd'hui, si vous faites de l'enseignement si votre but, c'est de faire de l'enseignement, vous n'êtes absolument pas valorisé. Il y a des primes, mais il n'y a aucun argent derrière parce que la fac ne veut pas les mettre. Donc aujourd'hui, l'attention que veulent les gens, c'est aller vers du free riding, c'est-à-dire je joue ma carte personnelle et je fais de la recherche et je me fiche un peu de ce qui peut se passer. Est-ce que vous voyez à moyen terme une manière de faire pour corriger ça? Et la dernière, ça va être une question sur la variable d'ajustement. Aujourd'hui, on a des gros soucis de financement. Je l'avoue, je suis universitaire, je suis dans des conseils du FR. Aujourd'hui, les conseils du FR, les dialogues qu'on a, c'est des dialogues de gestion, absolument plus des dialogues de finance, c'est plus des dialogues de pédagogie, etc., où on se pose la question de quelle filière va-t-on fermer pour pouvoir assurer une autre. Il y a eu des primes pour le financement de certaines activités en recherche ou en enseignement. La fac n'a pas les moyens de les faire. Est-ce qu'on les passe en disant, ben voilà, je supprime certaines filières pour financer ça. Donc la question, quelle va être la variable d'ajustement, les universitaires, les élèves, en limitant les capacités.
Merci Emmanuel. On prend une autre question devant Catherine.
Oui, peut-être tout d'abord, je voudrais remercier M. Molinier pour la liberté de parole qu'il a eue ce soir et surtout en 2009. Je crois que peu de présidents d'université ont eu ce courage que vous avez eu et je tenais à vous en remercier. Maintenant, je voudrais poser quelques questions à M. Pagési. Peut-être la toute première, c'est si le bilan est si positif que vous le dites, est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle nous sommes descendus dans la rue? Enfin, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi nous sommes descendus dans la rue? Et puis, une autre, en 2009, hein, pourquoi est-ce que nous autres universitaires, hein, puisque je suis universitaire, la deuxième question, j'en ai deux, ce sera donc ma deuxième, voilà. Dans la réforme, on a parlé, vous en avez parlé aussi, d'autonomie. On a parlé aussi de dégagement de fonds importants. Et sur le terrain, moi-même, donc, qui suis universitaire, sur le terrain, très, très concrètement, et mes étudiants, on a une perception inverse, c'est-à-dire... que l'autonomie, on a l'impression, M. Molinier l'a dit, qu'en fait, il y en a plutôt un peu moins qu'avant. Pour la situation financière, ce qu'on constate au quotidien, c'est au contraire l'inverse. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il n'y a plus d'argent. Nous n'avons plus qu'un secrétariat pour 3 UFR, ce qui fait que nous faisons maintenant un travail de secrétariat. Et puis, il a été question, nous, à Bordeaux, de supprimer la filière de lettres classiques parce qu'il n'y avait plus d'argent pour la financer. Enfin, c'était le CAPES de lettres classiques qu'il était question de supprimer et la filière avec. Et puis, dernier exemple, et je viens à ma question, vous avez parlé de la nécessité de l'attention portée à l'insertion professionnelle, mais une des conséquences, nous, c'est par exemple, précisément, la suppression de la préparation CAPES de lettres classiques, c'était une filière qui préparait un métier et on la supprime. Et d'autre part, pour nos étudiants qui préparent des thèses, nous, on n'ose plus leur dire de préparer des thèses parce qu'il n'y a plus de poste après. Alors la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que je dois répondre à mes étudiants chez qui ça finit par créer une crise morale parce qu'ils entendent des mots prononcés en haut lieu et ils voient que sur le terrain, c'est l'inverse. Donc qu'est-ce que je dois répondre à mes étudiants?
Voilà, on va en rester là. Déjà, je crois qu'il y a matière à répondre Monsieur Olivier Pagési va pouvoir le faire. Je lui laisse le temps de trouver les...
Voilà. On va répondre tous les deux.
Oui, bien sûr. Mais vous pouvez commencer, parce que je crois qu'il y a certaines choses qui s'adressent à vous.
Non, mais je ne vais pas me défausser. C'est toujours très difficile de répondre sur des cas concrets que vous vivez dans votre établissement. Malheureusement un peu loin du terrain, mais néanmoins bon, il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas accepter, la critique sur le manque des moyens. Donc je n'ai pas repris le président Molinier tout à l'heure, mais deux chiffres comme ça, pas trois. D'abord sur la dotation de fonctionnement des universités a augmenté de 22% depuis 2007. Elle avait augmenté de 10% sur les 4 années précédentes. Donc il y a eu un effort sur le fonctionnement, sachant que par ailleurs toute la masse salariale était payée et que ces chiffres n'intégraient pas l'effort immobilier que j'ai évoqué tout à l'heure et tout ce qu'on a fait pour les investissements d'une manière générale. Donc il y a eu quand même une augmentation des moyens, peut-être que ce n'est pas arrivé jusqu'à votre UFR, mais globalement, c'est difficilement contestable. Et par ailleurs, sur la revalorisation des carrières, il y a eu beaucoup de moyens supplémentaires. On a augmenté les salaires des jeunes, de conférences entre 12 et 25% en 3 ans. Il n'y a pas beaucoup de pays en Europe en ce moment qui augmentent les salaires des fonctionnaires. Donc je pense que ça ne répond pas complètement à la réalité que vous vivez, mais d'un point de vue un peu macro-économique, les chiffres que j'ai, que je connais bien, sont orientés à la hausse. De même que je ne peux pas accepter ce qui a été dit sur les risques de cessation de paiement des universités de Limoges et de Reims. Je connais bien ces deux cas et il n'y a eu aucun risque de cessation de paiement. Les inquiétudes des présidents, qui effectivement sont venus nous voir, ont été rapidement levées. Alors pour en revenir maintenant aux trois questions, le problème des grandes écoles qui n'apparaissent pas dans les classements, mais qui avaient les moyens pour le faire, enfin, je ne sais pas si c'est ça la question. Non, je pense que les grandes écoles ne pourront jamais apparaître dans les classements, tout simplement parce qu'aujourd'hui les classements valorisent la recherche. On peut ne pas être d'accord, mais c'est un critère important. Et comme l'a dit le président Molinier, la recherche, elle se fait à l'université. Elle ne se fait pas dans les grandes écoles. Donc le problème du classement de nos universités, moi, je ne le vois pas uniquement sous l'angle des moyens, je le vois sous l'angle de la visibilité de la marque. Et si nous arrivons à faire ce que les trois universités parisiennes font actuellement, à travers le PRESS, Sorbonne Université, s'il y a une marque unique avec signature unique des publications, et un doctorat qui est signé là aussi de Sorbonne Université, je pense que mécaniquement le classement des trois universités parisiennes va s'améliorer. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas, et d'ailleurs on a fait des simulations qui montrent que ça va progresser. Simplement, il faut accepter de passer par une signature commune de publication et par une marque qui n'est pas forcément la marque de Bordeaux 1, Bordeaux 2, Bordeaux 3, Bordeaux 4, mais qui est la marque Université de Bordeaux, tout simplement. Deuxième réponse à votre question, la reconnaissance de la formation, des activités de formation dans la carrière des enseignants-chercheurs. Ça, c'est un vrai sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, on valorise beaucoup plus les activités de recherche que les activités d'enseignement. On a essayé de corriger un peu les choses à travers des primes, mais je suis bien d'accord avec vous, ça ne répond pas complètement à la question. Et donc c'est un sujet que nous sommes en train de regarder, mais ça suppose de revoir aussi les pratiques d'évaluation du CNU, de l'AERS. Enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ça suppose un travail important sur l'évaluation. Troisième question sur la réalité budgétaire que vous vivez, le fait que vous êtes obligé de faire des choix avec un dialogue de gestion qui est un peu bureaucratique, d'après ce que je comprends, même si le mot n'a pas été prononcé. Je crois que le dialogue de gestion, il faut qu'il ait lieu. Aujourd'hui, c'est justement le rôle des directions des établissements. Mais c'est vrai que c'est un dialogue qui n'est pas uniquement un dialogue sur les postes. C'est doit être un dialogue beaucoup plus stratégique qui intègre l'ensemble des activités. Voilà. Et s'il faut faire des choix pour fermer des formations qui attirent peu d'étudiants ou qui ont peu de débouchés professionnels, il faut les faire. C'est le sens de l'autonomie, c'est faire des choix. Et ce n'est plus l'État qui les fait, ce sont les établissements qui doivent les faire. Donc nous assumons parfaitement le fait que des directions d'établissements doivent fermer des formations qui n'attirent plus. En ce qui concerne la deuxième série de questions, une réforme qui a réussi, et pourtant nous étions dans la rue en 2009. Bon, je crois que, comme l'a dit le président Molinier, l'origine des mouvements était liée à une autre réforme, qui n'est pas la réforme des universités, qui était la réforme de la formation des maîtres. Il y a eu un télescopage un peu malheureux de ces deux réformes. La réforme de la formation des maîtres est en train d'être corrigée. Elle n'est pas remise en cause, comme le souhaiterait peut-être le président, mais en tout cas, on est en train de la corriger. Et aujourd'hui, je n'entends pas de critique sur la réforme de l'autonomie. Absolument. Ensuite, la question sur le problème de l'insertion sur des filières type CAPES, c'est vrai qu'il y a une certaine crise des vocations dans l'enseignement aujourd'hui. Alors c'est peut-être lié, on l'observe, mais c'est effectivement lié à l'allongement de la durée des formations, c'est effectivement lié au fait qu'il y a moins de postes au recrutement, mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de recruter comme on recrutait avant, vu le volume de départ que nous avons. Donc nous assumons la suppression des postes dans l'éducation nationale. Simplement, c'est pas mon activité aujourd'hui, donc je ne vais pas m'étendre sur ces sujets-là. Je pense que quand même, par rapport à votre question, la baisse du nombre d'étudiants qui passent les concours est peut-être transitoire. Je pense qu'on est sur une année charnière cette année. Il faut regarder les choses un peu plus dans la durée. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse tirer des enseignements définitifs de la situation actuelle.
Merci. Monsieur Bollinier, peut-être une ou deux réactions aux questions.
On continuera
jusqu'à, comme c'est la dernière fois, on a le droit à un bonus, jusqu'à 21h pour avoir le temps de reprendre peut-être deux autres questions.
Non, moi je ne vais pas réagir à ce qu'ont dit les membres de l'Assemblée. Monsieur Pagési a dit ce qu'il a pu dire. Bien sûr, si j'avais été à sa place, j'aurais dit peut-être la même chose, mais je ne suis pas à sa place. Et le fond des choses, il y a deux éléments de fond qui sont en jeu. Un sur lequel il faut dire avec clarté, le problème, les difficultés, pour moi c'est calamiteux, ne sont en rien la responsabilité du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La suppression de 32 000 emplois dans l'enseignement primaire et secondaire, ce n'est pas Mme Pécresse qui les a décidés. Hein. Et quand j'avais quand même réussi à discuter pendant une heure avec M. Darcos au début du mouvement, j'ai pu discuter pendant une heure à la fin du mouvement Madame Bécresse, quand personne ne pensait que je ferais rentrer les étudiants pour faire poser des examens, et on m'attendait au tournant là pour des choses assez joyeuses. Et ces postes-là, ils ne reviendront pas. Ce n'est pas la peine de raconter de grandes histoires philosophiques, ce n'est pas philosophique, c'est une question d'argent. Bon, il y a eu un choix à très court terme qui a été fait, il est calamiteux, maintenant arrangez-vous. En revanche, je pense que sur la durée, vous avez certainement raison, il faut voir ça maintenant sur plusieurs années, mais la casse a été faite. Il y a des choses qu'on ne réparera pas. Du moins qu'on ne réparera pas tout de suite. En tout cas, il est certain qu'on en manque de gens. Sans quoi, pourquoi les recteurs seraient-ils larmoyants pour nous dire « Ah, vous n'aurez pas un étudiant, là, en deuxième année éventuellement, qui pourrait faire un cours quelque part ?» C'est comme ça qu'on a recruté un assassin, d'ailleurs, qu'il a fallu vider rapido, quelque part, dans le sud-est de la France, parce que le gars, il cherchait désespérément quelque chose, évidemment, il était disponible, lui. Bon. Mais la police était contente de l'avoir récupéré. En revanche, on n'est pas d'accord, mais ça, on ne va pas en discuter à perte de vue, sur la question de l'analyse financière. D'un certain point de vue, énormément d'argent a été mis par le ministère Pécresse dans l'enseignement supérieur. D'un autre point de vue, non. Voilà. Alors, et ça dépend de quel point de vue on se place. Du point de vue très macro, mais moi je ne suis pas du tout économiste, donc mes expressions ne sont pas forcément bonnes, il y a un type de financement important qui se propage, qui pour nous est fictif quand même, hein, d'un point de vue très micro, mais très micro, ben, ceux qui ne l'ont pas encore, ils sont vraiment très embêtés. Voilà, c'est ça le point. Et c'est tout. Voilà, on ne peut pas dire autre chose.
Voilà, est-ce que, encore peut-être, on va prendre deux questions. Alors, des questions brèves pour des réponses brèves.
Moi, je voudrais parler à monsieur le directeur du cabinet et je voudrais juste vous poser la question, quelle vision de l'université avez-vous, puisque vous parlez de durée, et à part la réduction des financements, c'est, quand vous avez parlé, je n'ai rien discerné que la réduction des financements et aucune vision de l'université, au contraire de monsieur le président qui parlait de l'université, c'est là où on fait la recherche, enfin, qui pouvait décrire ce que c'était que l'université. Voilà.
Merci. Peut-être autre question, réaction ? Oui, monsieur.
Oui, je crois que les jeunes ont une vision très utilitariste de l'enseignement et de la formation qu'ils peuvent avoir. C'est à tel point qu'il y a des gens qui pourraient suggérer de changer le nom du ministère de l'Éducation nationale en ministère de la formation. Alors, est-ce que vous avez des moyens pour lutter contre ça ? C'est-à-dire cette vision utilitariste et contre laquelle M. Molinier s'insurge à juste titre de l'enseignement.
Alors, on reprend de la hauteur oui. En fin de débat sur la vision. Quelle vision de l'université ? Voilà, vision utilitariste. Je ne sais pas qui veut essayer d'amorcer quelques éléments.
Moi, je veux bien répondre sur la deuxième question. Et je ne vais pas répondre sur la vision de M. Pagési de l'université. Mais en revanche, nous travaillons assez ensemble, M. Pagési et moi, avec des opinions parfois variables. Je ne peux pas laisser dire que M. Pagési n'a pas de vision de l'université. Il est directeur du cabinet, et je suis sûr qu'il a mis d'un seul guidon, et il a forcément une vision quand même. Bon, mais il fait ce qu'il peut. Bon. La question que vous posez, là, est une question évidemment de fond. Je pense qu'on est dans un univers médiatique, notamment en France, et pas seulement en France, qui est, on l'a bien vu donc il y a deux ans, fondamentalement anti-intellectualiste, anti-universitaire, anti-académique. Dans les journaux, le mot universitaire, d'ailleurs, veut dire bête, veut dire illisible, même dans la revue Études. Le mot universitaire veut dire pas lisible et un peu pénible, et plutôt lisez plutôt le bouquin d'à côté que celui-là. Donc, non, mais je dis ça en vous taquinant gentiment. Mais il y a l'idée que tout doit être rentable immédiatement. Cette idée est délétère, puisque quand je discutais, moi, il y a quelques années, parce qu'on appelait le CNPF, qui est l'ancêtre du MEDEF, et que je leur disais, parce que le mal vient de très loin, vous le dites, voilà, on forme des chômeurs, on forme des gens pénibles, voire plutôt gauchistes, etc., donc il y a enlevé tous les défauts, je sais bien. Bon, mais je leur disais, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on forme ? Réponse des gens qui réfléchissent, hein, des gens du genre... Ce que serait maintenant, n'était pas là, Laurence Danon et des gens qui autour d'elle, vraiment, MEDEF Éducation, ce sont des gens qui passent vraiment leur temps à réfléchir. Nous, on peut vous dire de quoi on a besoin entre 3 mois et 6 mois. Très bien. Moi, je réponds, nous, on forme des gens sur 5 ans, 6 ans, de formation. Et dans la compagnie, c'est plus long encore. Bon. Et voilà, on est dans la durée. La formation n'est pas rentable immédiatement. Et si on transformait le titre en formation nationale, bien, on aurait un appauvrissement, alors pour le coup utilitariste, désespérant, et je pense que M. Pagési pense comme moi sur ce point-là, de la pensée de ce que c'est, alors disons plutôt l'éducation, parce que là on n'est pas forcément enseignement supérieur, hein, je pense que ça touche aussi l'enseignement élémentaire, l'enseignement secondaire du système. Et il faut se battre contre ça, mais parfois on a l'impression qu'on est un peu seul.
Oui, enfin, donc sur ma vision de l'université, je suis un peu désolé de vous laisser avec cette impression, parce que j'ai essayé de vous dire que, au contraire, ma vision était très, très optimiste. Bon, on a une université française aujourd'hui qui attire plus d'étudiants, qui est à l'offensive, qui innove, qui se regroupe. Moi, j'ai une très grande confiance dans les universitaires pour s'organiser au quotidien. C'est pour ça que c'est pas nous qui définissons le dialogue de gestion entre les composantes et la direction de l'université. C'est pas nous qui imposons des modèles juridiques pour faciliter les regroupements entre universités. Et c'est pas nous qui imposons le nombre de bilicences qu'il faut faire entre Paris 2 et Paris 4. Donc tout ce qu'on fait, c'est pour redonner de la capacité d'initiative. Et j'espère vous avoir démontré que sans sélectionner à l'entrée et sans augmenter les droits d'inscription, donc en conservant ce socle qui fait partie de notre modèle français, on peut faire des choses et on peut casser l'image de l'université, parce que la situation que nous avons prise en 2007 n'était pas vraiment brillante. Et je pense que qu'en quelques années, on a redonné un nouveau visage à l'université. Et si aujourd'hui les grandes écoles se rapprochent des universités, c'est qu'elles voient bien qu'elles peuvent parler maintenant à des partenaires d'égal à égal et avec beaucoup de choses à partager ensemble. Voilà, on voit même des classes préparatoires aux grandes écoles dans les universités. C'est quelque chose qui était totalement impossible il y a encore quelques années. Donc on a, je crois, décloisonné un système qui était devenu très bureaucratique, mal géré, peu attractif pour les étudiants et posait pas beaucoup de débouchés professionnels à la sortie, même si j'ai bien compris que vous étiez attaché à la formation au-delà de la professionnalisation. Donc moi je suis très confiant, j'ai profité du système des grandes écoles, j'ai quand même un diplôme universitaire, puisque j'ai une licence universitaire. Mais voilà, donc je connais bien les deux modèles et je trouve qu'aujourd'hui, tous les clichés d'hier sont complètement dépassés. Et ça se voit dans les chiffres, tout simplement. Donc moi, je suis plein d'optimisme et je pense qu'il faut, il faut essayer de sortir un peu des schémas du passé.
Voilà, je vous propose que nous en restions là, non pas qu'il n'y aurait pas encore beaucoup, beaucoup de choses à aborder ce soir. Je voudrais vraiment remercier en votre nom M. Molinier et M. Pagési, parce que ce n'était pas forcément facile de se retrouver pour aborder un sujet aussi sensible et important. On aura à suivre, évidemment, dans les mois qui viennent, un peu l'évolution de l'université et de voir comment résonne aussi en nous les propos qui ont été tenus ce soir. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon été bien mérité, du courage aux universitaires qui sont dans la salle, et je vous donne rendez-vous le mardi 4 octobre pour la prochaine soirée d'éthique publique. Bonsoir à tous.